Bien, bonsoir. Donc, on va continuer, terminer, poursuivre ce qu'on a commencé la dernière fois. Et donc, l'idée, c'est aujourd'hui de s'intéresser qu'au XXe siècle. Et bon, si vous vous souvenez, la dernière fois, il y avait un premier moment pour moi qui était autour de, finalement, des figures chamaniques, on peut dire ça comme ça. Et donc, figure du divin, c'était assez animal comme figure, pour aller un peu vite. Et puis, il y avait un second moment qui s'intéressait plutôt au monothéisme, et spécialement donc, à la religion chrétienne, et pour voir comment il y avait cette figure du Christ, hein, qui, avec le christomorphisme. Donc, cette figure du Christ qui était une image de Dieu, donc, puisqu'il y avait incarnation. Et puis penser ça dans cette problématique d'un rapport à l'invisible. Donc c'était deux moments, on va dire, qui me semblaient fondateurs, on va dire, assez importants pour les figures du divin. Alors le XXe siècle, là, pour moi, est dans le prolongement de tout ça, mais j'avais esquissé aussi un rapport aux images, hein, qui pouvait être pensé chronologiquement et en même temps comme une façon de penser le rapport aux images que je reprends à Régis Debray, hein, dans son livre « Vie et mort de l'image ». Donc il y a un premier moment où les images sont vraiment du côté du divin. Donc l'art, c'est la religion. Il n'y a pas d'art, mais hein, repenser aux grottes dont on avait parlé, il y a des pratiques qui deviennent artistiques, qu'on pense comme ça maintenant, mais qui sont dans le rapport au divin. Puis un second moment, hein, que j'avais situé à partir de la Renaissance et jusque justement au début du XXe siècle, où on pourrait dire qu'il y a une sorte de conquête de l'espace, hein, la perspective, ça permettait d'appréhender ça. Donc il y a un déplacement des figures de Dieu pour aller vers les figures de l'homme, hein, l'homme devient central, et puis l'homme maîtrise le monde. Donc on voit bien comment ça se passe très concrètement dans le régime pictural, hein, de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Et puis ça c'était deux moments qui permettent de penser le rapport aux images, parce que c'est vrai qu'on peut le voir chronologiquement, mais en même temps, je pense que vous allez percevoir ça ce soir, ça se superpose tout ça, hein, le rapport, c'est-à-dire bon, le troisième moment, on va dire, que Debray situe à partir des années 70, c'est un moment où les images ne sont pour lui, hein, c'est un peu rapide, mais les images ne sont plus liées ni à Dieu, ni à l'homme, mais à la machine. Hein. Elles ne sont plus du côté ni de la présence, ni de la représentation, ni de la simulation. Et on peut voir comment on passe au niveau des supports de quelque chose d'assez lourd, hein, qui peut être les fresques, par exemple, dans tous les sanctuaires, pour temples et églises, à un moment où on passe à la toile sur châssis, et puis maintenant on est dans la vidéo, hein, donc dans la simple projection lumineuse. Donc on voit bien aussi que les supports matériels de l'image vont du plus lourd au plus léger. Donc ce XXe siècle... Le XXe siècle, il peut être pensé comme, au moins dans sa première partie, comme un grand moment de déconstruction de l'espace pour moi. Je trouve que, par exemple, tous ces mouvements de début du XXe, fin XIXe, on a l'impressionnisme déjà, puis après on a le cubisme, on a l'abstraction, le surréalisme, le futurisme. Tous ces mouvements-là sont des mouvements qui vont remettre en question l'espace hérité justement de la Renaissance. Donc on a vraiment un premier travail sur l'espace qui est du côté de la déconstruction et dont le cubisme peut être une figure. Mais il y a une autre chose aussi qui se passe, c'est qu'on quitte un peu le régime objet, entre guillemets, de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que jusqu'en ce début du XXe siècle, on est quand même dans un rapport à l'objet artistique, sculpture, peinture. Et puis on va voir le XXe siècle, finalement, la pratique artistique va moins être peut-être pensée par rapport à un objet que par rapport à une expérience. Donc les artistes font l'expérience de quelque chose, et puis cette expérience produit des objets, on est bien d'accord, hein, mais il y a vraiment plutôt une attention à cette expérience et à des procédures hein, qu'ils mettent en place et qui leur permettent de développer leur art. Mais on n'est pas forcément dans un rapport à l'objet comme ça a été le cas, on va dire, pendant longtemps. Et puis, donc, déconstruction de l'espace, on a aussi donc, ce rapport à l'objet, œuvre d'art qui tend à disparaître pour être remplacé par des expériences. Il y a aussi un autre phénomène, sans doute, qui est quelque chose comme une masse, je ne sais pas, inflation des œuvres d'art, massification de l'art, développement du tourisme, ces choses-là. Vous avez remarqué que quand on va, maintenant, le commun des mortels, je crois, quand on visite un endroit, on va dans les musées. Hein, c'est comme un passage obligatoire de tourisme, entre guillemets. Hein. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui, aussi, qui se passe. Donc, le musée, alors, c'est pour moi qui le dis, puis c'est un peu rapide, mais en même temps, ça donne une idée. C'est vrai qu'on a des choses assez paradoxales, pour moi, c'est que les églises se vident et les musées se remplissent. Et vraiment, l'attitude, en fait, qu'on retrouve dans les musées, elle n'est pas très loin de l'attitude qu'on a eue dans les églises, hein, d'être face à une œuvre, de méditer, d'essayer de comprendre, etc. Donc il y a ce rapport-là aussi qui sans doute doit être pensé pour permettre de comprendre l'art et pour de permettre pourquoi il y a ce rapport à l'œuvre qui est entre l'expérience sensible et une expérience de l'inintelligible ou de l'invisible. Hein, j'essaierai de montrer ça tout à l'heure. Et puis, dernière chose peut-être, et je pense que j'essaierai de terminer sur ça, c'est de penser comment, dans la pratique artistique contemporaine, on va dire, moi je suis assez d'accord sur la date de Brel, dire en 70, tout d'un coup quelque chose change. Pour lui, c'est l'arrivée de la télévision couleur en France, hein, c'est pour ça qu'il prend cette 68, exactement. Et donc, il y a sans doute quelque chose aussi qui se passe du côté d'un art qui devient très du côté du divertissement, on va dire. Hein, c'est-à-dire qu'une bonne expo, ça va avec le tourisme de masse, on va dire, c'est quelque chose qui peut faire penser, mais qui est quand même bien pensé dans le ludique. Quoi. Donc ça, c'est Walter Benjamin qui a pas mal travaillé sur ça, hein, dès les années 30. Je trouve qu'il est assez prémonitoire pour penser ça. Benjamin, il pense un art qui devient un divertissement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller vite. Vous avez remarqué dans les musées, il n'y a plus d'endroit pour s'asseoir. Hein. Donc on circule. Quoi, hein. Donc il y a ce côté-là, balayage du regard, on ne s'arrête pas et on prend du plaisir, voilà, quelque chose comme ça. Et pour lui, la forme accomplie de l'art, c'est donc le cinéma. Hein. Et c'est vrai qu'il a pensé le cinéma comme un art du futur. Et je pense que ça donne une idée aussi, puisque le cinéma est quelque chose qui est très, je trouve, dans le régime d'image, quelque chose qui est très très répandu, et vous avez vu qu'il marche, enfin ça fonctionne, hein, il y a de la production cinématographique, donc ça donne peut-être une idée aussi de comme un point de fuite. Et donc ce soir on va voir des images, des photos bien sûr comme d'habitude, mais aussi un peu de cinéma et un peu de vidéo. Donc alors je vous ai mis ça parce que c'est donc un des artistes dont je vais parler, Richard Long, et il y a donc ces mouvements qui s'appellent le Land Art. Et donc, il y a une œuvre de lui qui se trouve au Carré d'Art. Hein. Voilà, pareil, c'est-à-dire qu'il il fait peindre un mur noir. C'est quelqu'un qui habite près d'un fleuve, qui est anglais. Et donc, il récupère une sorte de barbotine, argile blanche. Et donc, là, il la pose avec ses mains. Donc, vous voyez ce côté, pour le côté expérience, procédure, c'est vrai que la procédure, il y a un objet qui reste, hein, qu'on voit, mais vraiment, c'est quelque chose d'assez physique, on va dire, hein, une expérience primaire, essentielle, élémentaire, quelque chose comme ça pour lui, dans ce rapport de son corps à la terre. Évidemment, pour moi, je pense tout de suite aux grottes, et puis vous voyez aussi cette figure de cercle, hein, c'est vrai que, je pense, la dernière fois, j'ai commencé par plutôt les muses primitives, c'est vrai que peut-être je l'ai dit, je ne suis pas très sûr, mais c'est vrai qu'on peut penser quelque chose d'élémentaire avec les Vénus primitives, toutes les figures du cercle, et toutes les figures aussi phalliques, évidemment, hein, donc, qui sont fertilité, fécondité, hein, de figures, on va dire, qui arrivent. Là, on est donc de nouveau dans le cercle. Alors, Donc, premier moment pour moi, c'est s'intéresser, vous montrer une série d'images, de penser le retour dans... Vous vous souvenez aussi, j'avais dit cette histoire un peu qui m'intéresse toujours, comment l'histoire de l'art n'arrête pas de se reconstruire, quoi, hein, puisque finalement l'art préhistorique est une découverte dans l'histoire de l'art assez récente, hein, etc., etc. Et donc l'art primitif, ce qu'on appelle l'art primitif, hein, qui, enfin, je veux dire, c'est amusant aussi de penser que le Louvre maintenant a bien sûr une partie du Louvre qui est du côté des arts premiers, il y a le musée du Quai Branly, hein, tout ça c'est des nouveautés, entre guillemets, des façons de penser l'histoire de l'art. Et le début du XXe siècle, une des choses qui se passe, c'est vraiment cette découverte de l'art primitif. Et donc, beaucoup d'artistes du début du XXe siècle vont alimenter d'une façon subtile et complexe, dont je ne vais pas pouvoir vous rapporter tout ça, parce que c'est complexe et que je ne connais absolument pas tout. Mais en tout cas, on le sait pour certains, ils ont été immergés dans ce rapport-là. Alors le premier, c'est Picasso, hein, les modèles d'Avignon, très très fameux tableau. Et bon, Picasso est donc une figure centrale, on va dire, de ce début de XXe siècle, justement, hein, c'est figure de l'artiste moderne, on va dire. Mais je pense à juste titre. Et donc, il y a le cubisme, je ne veux pas en parler aujourd'hui. Mais vous voyez donc dans les Demoiselles, on voit bien comment la statuaire africaine, pour lui, hein, a été réutilisée dans son travail. On peut dire rapidement une sorte de stylisation des formes qui, lui, comme peintre, l'intéressait. Par ailleurs, il dit des choses vraiment intéressantes, Picasso. C'est-à-dire que, par exemple, il utilise le mot exorcisme. Il n'est pas si bavard que ça sur son art, Picasso. Donc, vraiment, penser la peinture du côté de l'exorcisme, comme il le suggère, on va dire, je trouve que voilà, ça fait vraiment repenser ce rapport de l'art à ce que j'ai appelé les figures chamaniques. Et puis, quand il parle, donc, alors il va visiter le musée de l'homme au Trocadéro, où il y a donc un choc devant, il le dit comme ça, un choc devant la statuaire africaine, et c'est tout à fait la puissance des... ce qu'il sent. Il parle de puissance affective, hein, c'est le terme qu'il utilise, mais donc la puissance de ces idoles, de ces images, de ces statuettes qui le frappent. Et c'est ça qu'il va essayer de retrouver. Hein. Vous vous souvenez aussi quand on disait, voilà, l'histoire de l'art fait une histoire des formes. Hein. Je veux dire, Picasso est intéressant, parce que quand il parle de ça, là, bien sûr, c'est des formes qu'il travaille, mais quand il raconte cette vie de Trocadéro, c'est bien des forces, entre guillemets, affectives, sentimentales, comme ça, qu'il ressent. Quoi. Et c'est ça qui l'intéresse. Hein. Il parle de ça, de puissance affective des images. Hein. Ça l'intéresse de retravailler ce côté-là. Alors, tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment d'essayer, là, les quelques images, c'est de montrer des rapports formels, on est bien d'accord, entre des activités de ces artistes du XXe siècle, du début du XXe, qui révolutionnent l'art, et en même temps, des rapprochements formels qui sont assez évidents, je crois. Alors, voilà, donc... voilà donc un détail, hein, des Demoiselles d'Avignon, un détail. Et vous voyez, masque, alors après tout de suite, voilà, un masque, on peut retrouver sur les couleurs, les formes, ou ce masque aussi. Hein. On voit comment là, on est bien proche de ce que peut travailler Picasso. Alors ça, c'est une photo de Picasso dans son atelier. Vous voyez, donc on retrouve donc toutes... Là, c'est des fêtages africains, et puis ici, c'est aussi deux objets africains. Hein, donc, il est vraiment. Alors, il dit que c'est moins des exemples que des témoins, dit-il. Hein, il a installé comme des témoins. Vous voyez, c'est toujours intéressant, toujours ce rapport à la force, en même temps, moins que, ça veut dire aussi. On peut le dire comme ça, c'est-à-dire. Je pense aussi comme une inspiration. Alors ça, c'est donc là, c'était dans les années 20 plus tôt, et là, c'est son atelier beaucoup plus tard, dans les années 50, et là, il y a donc une autre, en fait, un masque porté, et c'est un masque que Matisse possédait et qui a été offert par Matisse, enfin, c'est après sa mort, à Picasso, et que Picasso a gardé dans son atelier. Donc vous voyez, je veux dire, à 50 ans presque, enfin, je ne sais pas, 40 ans de distance, Picasso est accompagné par tous ces objets dits primitifs, et ils sont vraiment, voilà, il l'accompagne dans ses ateliers. Voilà une peinture de Picasso plus ancienne. Voilà, on peut je mets en rapport avec des masques. Bon, et un autre travail de Picasso, un portrait d'Olga, où aussi on peut retrouver comme ça. Ça, c'est aussi un masque Nouvelle-Colombie. Vous voyez, une autre peinture de Picasso. Hein, où, voilà. Alors, il y a toutes les chances que Picasso n'ait pas connu ce masque et tout ça. Hein. C'est pas trop le problème. C'est qu'on voit des choses qui se recroisent. Voilà aussi des sculptures. À droite, une sculpture de Picasso, puis là, un masque, c'est Nouveau. Hein. Et donc, bon, ça, on le sait un peu comme récitation. Donc, dans ces masques, en fait, il y a l'idée que le creux est représenté par un relief au niveau des yeux. Hein. Et là, c'est une guitare. Et vous voyez que Picasso reprend formellement, on peut le dire comme ça, une pratique plastique, si on peut dire. Alors après, il y a une autre personne, évidemment, importante aussi en début de siècle, c'est Brancusi, en sculpture. Et puis, je sais pas, un peu plus tard, de l'abstraction. Donc, Brancusi, on peut dire que c'est quelqu'un qui révolutionne la sculpture du début du XXe siècle. Et là aussi, les rapports sont très très forts. On retrouve la stylisation déjà en œuvre chez Picasso. Mais on retrouve dans son travail sur la sculpture aussi ce qui est connu sur Brancusi, c'est son souci du socle, enfin l'absence de socle. Il y a vraiment, les socles font partie de sa sculpture. Hein. Et donc, là, c'est deux sculptures l'une sur l'autre, en fait. Vous voyez, alors ça, c'est un portrait de LR, et puis voilà un reliquaire du Gabon. Hein, donc on peut vraiment retrouver aussi des formes extrêmement proches. Et voilà Princesse X à droite de Brancusi et un pilon africain à gauche, hein, où on retrouve formellement évidemment les mêmes choses, puis aussi au niveau du souci de phallique, forme de fertilité, etc. Donc toujours ces deux choses-là. Là aussi, donc une sculpture de Brancusi et puis un cimier. Donc on retrouve un registre aussi assez proche. Alors, j'avance un peu vite, enfin j'avance, je veux dire. Matisse, hein, un portrait de Matisse, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples. Portrait de Matisse, et puis voilà, un masque. Hein. Donc, et c'est vrai que parfois c'est un jeu aussi, hein, c'est pas moi qui me suis amusé à faire tous ces rapprochements, c'est d'autres, hein, mais c'est un jeu très rigolo et très infini de pouvoir rapprocher ça. Mais ça donne vraiment, je pense, pour moi, une conjonction très intéressante de choses, hein, ce croisement de registres formels et registres de pensée, on va dire, sur ces forces en activité dans l'art, et que la liberté qu'arrive au XXe siècle va permettre de développer. Vous voyez, les masques, on peut reconnaître certaines figures. Voilà un collage de Matisse, on sait qu'il a été aussi en Océanie, et que ça a développé tout un registre de choses pour lui. Bien sûr, hein, bon, là voilà la chapelle de Vence de Matisse. Hein, il s'est aussi, Matisse a intéressé de très près aux figures religieuses, hein, puisqu'il il construit cette chapelle. On sait que ça l'a beaucoup intéressé. Donc un souci là du spirituel très très clair. Alors Giacometti, aussi un autre sculpteur de ce début du XXe siècle, donc le nez de Giacometti, qu'on peut mettre en rapport avec cette sculpture-là. Hein, avec alors des sortes de jeux aussi qu'il faut penser comme des jeux artistiques, c'est-à-dire assurément ils connaissent, enfin c'est un peu vite, mais ces artistes connaissent pas forcément l'art primitif au sens, c'est pas des spécialistes ni rien, hein. Donc là par exemple on peut supposer quand même que Giacometti ait vu ce masque, enfin, avant de faire sa sculpture. Alors là en fait il s'agit pas du tout d'un nez dans l'original, si je puis dire, c'est un porte-voix, en fait. Hein, c'est quelque chose qui est à la place de la bouche, donc masque porté, cérémonie rituelle, et donc ça fait un effet sonore. Donc on peut penser que Giacometti l'a vu et qu'il a cru que c'était un nez, vous voyez, qu'importe. Hein, mais c'est aussi rigolo de penser cette réappropriation des choses. Voilà aussi une sculpture de Giacometti, et voilà donc une sculpture océanienne. Hein, on peut vraiment voir des... Donc une sculpture de Giacometti, et voilà d'autres sculptures art primitif. Hein, on voit qu'il y a tout un registre. Et voilà aussi table du Bénin et une sculpture, la table de Giacometti, hein, où on peut aussi voir des rapports formels. Une autre sculpture de Giacometti. Alors, ça aussi, c'est une petite sculpture le nom m'échappe. Kachina, je crois, c'est indien, donc, indien des Amériques, et donc un tableau de clé. Hein. Et donc là, on peut retrouver la petite flèche, par exemple, hein, vous voyez, qui est en haut, hein, c'est assez étrange, la plume dans le nez, et on peut retrouver cette chose-là aussi. Alors c'est un tableau qui est fait dans les années 30, et monté du nazisme. Vous voyez, il y a donc dans ce que j'ai lu sur ce tableau-là, il y avait cette idée que Clay, sensible à cette atmosphère de terreur, qui d'un coup, fait cette peinture-là, et peut-être, vous voyez, il ne s'agit pas de copier, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui revient de cette statuette qu'il a vue, qu'il était impressionné, et deux terreurs tout d'un coup se rejoignent, on va dire. Bon, là aussi, des travaux de Clay qui sont faites en rapport, ça c'est un bouclier, hein, au niveau des motifs, autre peinture de clé, hein, et ça c'est un tapis Bambara, on voit qu'il y a des registres là plutôt pictogrammes, enfin, du côté du pictogramme, qui se recoupent. Donc, une sculpture de Ernst et cette sculpture primitive, vous voyez, on retrouve la même forme, la tête d'oiseau, hein, donc parfois il y a des choses vraiment très très proches. Et puis voilà Ernst avec sa collection de Kachina, hein, de poupées indiennes, des Indiens d'Amérique. Hein, et puis Ernst est quelqu'un qui va beaucoup développer dans ses textes, dans ce qu'il écrit et dans sa vision du monde, ce rapport à la magie. Hein. Donc tous les surréalistes aussi, je crois que je ne vais pas beaucoup parler des surréalistes. Mata, aussi une peinture de Mata, on peut rapprocher aussi une sculpture de Nouvelle-Calédonie. Et ça, pour... donc je vais un peu vite sur ça, mais... Gauguin, hein, juste quand même pour parler de Gauguin, enfin je viendrai un peu plus tard, mais parce que c'est vraiment certainement lui qui initie, enfin qui est pensé comme un précurseur dans le rapport à l'art primitif. Puis il y va, Gauguin. Hein, et donc il fait cette petite idole à la coque. Et aussi, il fait cette sculpture. Alors, on retrouve la figure du crucifié. Hein, c'est une sorte de sculpture assez priapique ou phallique. D'un côté, une idole, et de l'autre côté, le crucifié. Hein, sculpture sur bois. Et très du côté des sculptures phalliques. Et puis, bon, Émile Nolde, hein, aussi. Donc, on sait, vous voyez, elle copie. Hein, vraiment, il y a des. On voit bien comment elle copie. Une tête brésilienne, et elle la réutilise dans sa peinture. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Là. Dans les surréalistes, ou peut-être juste celui-là, Miro, quoi, où on voit aussi que hein, même on peut penser à un rapport à l'art primitif. Donc ça, c'est la première, pour moi, grande direction, on va dire, de ce début du XXe siècle, renouvellement des formes, et qui fait beaucoup appel à l'art primitif. Et pour moi, qui est une façon de penser, donc de repenser les figures chamaniques ou le rapport aux forces. Alors après, il y a l'abstraction. Donc c'est vrai que ça me semble le deuxième, dans ce début du 20e, c'est le grand mouvement peut-être. On va dire le XXe siècle, donc c'est cubisme, c'est tout ce qu'on voit autour de la primitif, c'est le dadaïsme et c'est l'abstraction. Hein, en fait, dans ces mouvements-là, ils vont avoir une très forte postérité durant tout le XXe siècle. Donc l'abstraction, ben voilà, ça continue jusqu'à nos jours. Et donc c'est donc je ça c'est une peinture donc de Monet, les impressionnistes, parce que je trouve intéressant, parce que qu'est-ce qui se passe par exemple dans le travail de Monet, c'est la perte de ligne d'horizon qu'on voit beaucoup avec ses nymphéas, hein, puisque il fait des peintures de reflets sur l'eau, hein, donc dos, détendu dos, qui reflète le ciel avec en plus les nénuphars. Donc vous voyez, tout d'un coup, on a une peinture qui casse absolument cette idée de l'espace issue de la perspective Renaissance, qui suppose au moins, au minimum, une ligne d'horizon qui sépare la Terre du ciel. Vous voyez que là, de toute façon, là, dans le travail de Monet, Terre et ciel ne sont plus séparés, sont mélangés, donc perdent la ligne d'horizon, qui peut s'entendre assez fortement aussi, moi je trouve, si on exagère, mais je n'ai pas besoin d'exagérer quand je dis ça, c'est perte d'horizon, c'est vraiment ce qui arrive au XXe siècle, hein, et ce qui nous fait nous, hein, on n'a plus d'horizon. Quoi. Donc ça, l'art, on va dire, si on le pense comme prémonitoire, hein, de ce qui va se passer, il y a quelque chose qui se passe dans la perte d'horizon, la perte du point de vue, la perte du point de fuite, dans vraiment la construction picturale, et puis qui peut se penser de façon plus mentale ou philosophique, on va dire. Donc voilà. Et puis parce que, donc Monet, parce que Monet, il va voir une exposition de Monet où il y a des meules. Et donc voilà, on a une. Et je pense qu'il y aura une seconde. Voilà. Et la première est pas mal. Et donc, il y a trois peintres abstraits, on va dire, qui apparaissent, c'est toujours intéressant aussi dans l'histoire de l'art, mais moi je pense beaucoup, apparition, disparition, et comment les choses se passent en même temps. Donc ils sont trois, Kandinsky, Malevitch et Mondrian, c'est les trois qui sont pensés comme les grands, enfin les fondateurs de la peinture abstraite, et ils pensent, ils font faire les mêmes choses à peu près en même temps. Donc c'est vraiment 1910-1913, hein, ces quelques années-là, tous les trois vont, de façon très diverse, développer cette peinture qu'on appelle abstraite et qu'ils appellent jamais abstraite. Ces peintures sans objet plutôt pour Kandinsky. Donc Kandinsky, cela dit, c'est lui qui, dans l'histoire de l'art, est censé être le premier, entre guillemets. On soupçonne d'avoir antidaté une aquarelle, enfin ça c'est une histoire, mais on s'en fiche un peu. Mais donc, bon, pourquoi pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte il a fait du spirituel dans l'art, hein, donc spirituel, bien sûr. Et il raconte comment il va à l'exposition de Monet. Et alors, il voit une peinture et il ne comprend pas ce que ça représente. Et donc, il est obligé de regarder le cartel, il voit Meule, et alors là, il comprend que c'est une Meule. Donc, c'est la première chose importante pour lui qui lui fait se poser des questions sur qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire comme peinture. Et le deuxième événement qu'il raconte dans ses mémoires, c'est donc qu'il rentre un soir chez lui, raconte, c'est une très belle journée, comme en ce moment, là, le beau soleil, il arrive chez lui, 5h du soir, et au-dessus de son buffet, en entrant chez lui, il voit une peinture, la lumière du soir, donc cette belle lumière du soir, qui le fascine totalement, parce qu'il a, en une fraction de seconde, tout d'un coup, chez lui, la peinture qu'il veut faire, qu'il voudrait faire, celle dont il rêve et qui est là. Et en fait, il s'aperçoit que c'est la bonne qui est venue nettoyer et qui a raccroché le tableau à l'envers. Hein. Bon. Donc voilà. Mais enfin, ça, le travail, cette chose-là, vous voyez, Monet, et puis ce moment-là, dit-il, toujours dans ses mémoires, c'est voilà, il dit voilà, il faut quitter l'objet, donc abandonner l'objet. Et il va donc développer un type de peinture où j'ai toujours des formes, j'ai toujours des couleurs, mais je ne suis plus dans le souci de la figuration traditionnelle, de représenter un objet, une peinture sans objet. Hein. Donc voilà pour Kandinsky. Et ce qu'il va dire Kandinsky, du coup, il dit d'accord, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire, hein. Et donc lui, sa réponse, ça va être qu'il va parler de nécessité intérieure. Hein. Donc le peintre, l'artiste, est dans le rapport à la nécessité, une nécessité intérieure, hein, et c'est ça qu'il va essayer de développer. Alors ça, c'est donc le premier. Alors le second... Ah oui, Kandinsky, c'est marrant de voir aussi comment c'est dans son travail. Hein, donc Blau Reiter, et puis donc on est du côté du fauvisme, on va dire, hein, pour aller un peu vite. Et vous voyez, donc cette série de peintures, on voit vraiment l'abstraction se faire, hein, peu à peu. Hein. Et puis, voilà d'autres peintures de Kandinsky. Voilà, un autre encore. Et... juste pour mémoire. Et puis, donc, le second, c'est Malevitch. Donc, suprématisme. Alors, Malevitch, c'est compliqué, en fait. J'ai toujours trouvé compliqué. C'est un des plus intéressants. Mais. Donc, il fait deux peintures qui va annoncer, je ne sais pas, la fin de la peinture peut-être, hein, c'est aussi des choses qu'il dit, parce qu'il dit, voilà, il faut peut-être quitter la peinture pour l'écriture. Les termes qu'il utilise, c'est le rien libéré. Alors, ce n'est pas une mauvaise formule, dans un sens, peut-être. Hein. Donc, c'est tout croire, et puis ce carré noir sur fond blanc. Donc, c'est mes photos, c'est mal cadré, il y a l'écriture, mais en fait, ça, j'ai laissé parce que voilà, il y a aussi un fort rapport à l'écriture chez Malevitch. Alors, vous voyez, pour les abstraits, et Malevitch c'est une bonne figure, ce rien libéré, on n'est pas loin de Dieu, hein, dans un sens. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on peut penser chez, peut-être, on va dire chez Malevitch, les Russes, toute une façon de faire ressurgir la tradition des icônes. Hein, c'est-à-dire, vraiment, l'icône, c'est aussi l'idée d'une pure présence. Hein. Donc, peut-être qu'il y a dans cette abstraction, et spécialement avec des œuvres comme celle de Malevitch, vraiment la meilleure image que l'on puisse faire de Dieu. Hein, c'est-à-dire, voilà, une croix noire ou un carré noir, effectivement, si l'invisible, si Dieu est invisible, si je ne peux pas me le représenter, pensez à toutes ces traditions anconiques, hein, qu'on avait vues dans le judaïsme la dernière fois, et dans l'islam, je veux dire, voilà, c'est possible de faire une image qui soit au plus proche du divin en faisant ce carré noir ou cette croix. Et cette croix, je trouve, alors c'est une croix, hein, légèrement gauchie, on la voit à Beaubourg, c'est toujours très intéressant, parce qu'en fait, vous voyez, cette photo ne rend pas compte vraiment de ce que c'est. C'est qu'on a toutes les craquelures, on voit bien, on voit vraiment la matière quand on la voit de près. Et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle dit deux choses, parce qu'elle dit plein de choses en fait. Mais elle dit, un, pour moi, rature. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai que quelque chose se barre. Donc quelque chose de la représentation traditionnelle, quelque chose de toute une histoire de la peinture, quelque chose de toute une tradition des images, se barre tout d'un coup avec l'abstraction de ce début de siècle. Hein. En même temps, quelque chose se marque. Elle dit, attention, vous voyez, hein, je marque un moment. Donc, c'est déjà une très forte ambiguïté, ça fait deux choses contradictoires. Ça, je trouve ça bien. Hein. Et puis, bien sûr, on peut aussi retrouver donc, la figure de la croix comme figure religieuse. Quoi. Donc, bon, je ne sais pas s'il a pensé à tout ça, Malevitch, mais il pensait à beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est possible. Et le troisième... Donc, troisième, c'est Mondrian. Hein. Donc voilà une peinture de Mondrian. Donc, Mondrian, alors, vous voyez ce. Donc, on a Kandinsky, c'était intérieur. Malevitch, sorte de saut comme ça vers le rien libéré. Libération, donc, pour moi, on va dire liberté plutôt. Et Mondrian, toujours donc abstrait, lui, c'est plutôt. On va réduire le divers des choses à l'élémentaire essentiel. Donc, il va réduire le visible à vertical et horizontal et aux trois couleurs primaires. Hein. Voilà. Donc, cette façon, comme ça, voilà, de réduire à l'essentiel l'élémentaire, et du coup, ça donne son travail, où j'ai toujours cette grille noire dans laquelle apparaît donc trois couleurs, les trois primaires, posées en aplat. Hein. Donc, vous voyez, on a bien... Alors, oui... Je vais le dire, donc il s'intéresse beaucoup à la théosophie, Mondrian. Vous voyez, on a trois peintres abstraits, certes qui œuvrent différemment, mais ils sont tous les trois dans une quête spirituelle, hein, on peut dire ça. Quoi. Et je pense qu'ils retrouvent avec l'abstraction aussi un rapport aux images, du côté de l'invisible, hein, qui va énerver après tout le XXe siècle. Alors. Dans les petites histoires, je vous montre ça, c'est donc une peinture de Baselitz, qui est un peintre allemand qui a commencé à travailler depuis les années 70, on va dire, et qui peint à l'envers. Et juste parce que pour moi, c'est vraiment un écho à l'histoire de Kandinsky. Quoi. Hein, donc, c'était déjà vu, c'est-à-dire quand si vous êtes dans un musée, vous voyez une peinture à l'envers, avec cette touche assez marquée, assez expressionniste, c'est un Baselitz. Sûr de ça. Hein. Et donc lui, il explique d'ailleurs très bien que c'est le souci de continuer à peindre, mais donc il a besoin d'un sujet, Mais en même temps, il ne faut pas que, être trop contraint par ce sujet. Donc le fait de le peindre à l'envers lui donne à la fois une direction et en même temps une liberté. Hein. Et je trouve que c'est une bonne prolongation en fait, des enjeux justement de l'abstraction et de la petite histoire de Kandinsky. Alors là, je vous montre quand même un Christ aux outrages aussi, hein, bien sûr, de Baselitz. Alors, ensuite... j'ai toujours envie en même temps de faire un truc d'histoire de l'art, j'espère que vous n'en avez pas trop avec ça. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai que c'est toujours rigolo de penser les lieux dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire ce moment, alors par exemple, Renaissance, c'est Florence, hein, impressionnisme, c'est Paris, vous voyez. Donc, puissance économique, puissance artistique, ça va vraiment de pair. Depuis les années 50, les États-Unis. Hein, c'est-à-dire vraiment, Seconde Guerre mondiale, tout d'un coup, puis, voilà, on sait maintenant, les artistes les plus chers sont américains, etc. etc. Et donc ça c'est une image de Pollock. Donc va se développer à partir de la Seconde Guerre mondiale l'art abstrait américain avec des critiques d'art et tout ça. Hein, et donc va se développer l'art, la puissance on va dire américaine de l'art en tout cas, pas uniquement. Hein, et donc alors un des artistes c'est Pollock. Alors Pollock, donc son travail, on le voit en action, donc c'est le souci. Ah oui, je trouve ça aussi intéressant pour la perte de l'horizon. Quand vous êtes sur une peinture sur chevalet, l'horizon il est là, hein, au gaz avant. Si vous peignez au sol, il n'y a plus d'horizon. Hein. Donc lui peint toujours au sol. Autre chose, l'idée de cadre, vous vous souvenez, hein, la Renaissance, c'est vraiment voir le monde par une fenêtre. Ah là, il n'y a plus de fenêtre, c'est le all-over, c'est-à-dire qu'il met sa toile, il se fiche totalement, si je puis dire, de dépasser le pas. Hein. C'est même dans son principe. Après, il redécoupe ou pas, mais de toute façon. Donc, il n'y a aussi pas de limite. Et après, il y a toute tradition, on va dire, indienne, des États-Unis, avec tous ces chants, ils appellent ça des voix, c'est-à-dire tradition indienne de guérison, où on chante et on fait des images sur le sol avec du sable, hein, en gros. Et donc, avec... ce nombre de rites qui sont du côté de la guérison. Et donc là, Pollock connaît ça et assurément s'inspire, même comme les primitifs, hein, dont je parlais tout à l'heure, assez librement, mais peut-être qu'il s'inspire, on va dire, de ces tracés au sol faits très librement. Donc l'idée aussi, c'est de quitter, c'est-à-dire j'utilise encore un pinceau, mais je touche avec mon pinceau, je ne touche jamais la toile. Hein. C'est le dripping, c'est les coulures. Il a accroché des petites boîtes de conserve percées. Au bout de son atelier, et donc ça donne après des peintures comme ça, par exemple. Hein. Donc, avec cet entrelacement de. Voilà. Et on retrouve aussi dans ces peintures des traces de mains. Je vous montre juste parce que vous vous souvenez sur les grottes, il y avait ses mains, hein, de la paroi et tout ça. Donc, on peut vraiment retrouver aussi formellement ça. Alors, un autre peintre américain, alors qui est donc Rothko, alors on va rentrer aussi dans quelque chose, à mon avis, de plus en plus ce soir au fur et à mesure. C'est je vous montre des choses et j'ai l'impression qu'on ne voit plus rien, c'est-à-dire, ces tableaux-là, voilà, de toute façon, en plus, l'image n'est pas très bonne, mais qu'importe. C'est qu'il faut penser, c'est un tableau qui fait 3 mètres sur 5, 2 mètres sur 4, très grand tableau. Donc quand on est face à lui, déjà c'est assez imposant. Et vraiment, toute la peinture abstraite américaine, elle se développe, aux États-Unis peut-être aussi, dans des grands, grands formats. Hein. Et donc la photo va avoir de plus en plus de mal à rendre compte, un, de la dimension, et deux, de la texture, de la vibration que peut avoir le pigment. Tous ces peintres, hein, qui, vous voyez, bon voilà, quand je montre ça comme ça, c'est assez simple aussi, hein, parce que c'est vraiment très de Rothko et souvent prend souvent cette forme-là. Mais vraiment, il faut que vous essayiez d'imaginer, si je puis dire, que quand on est face à des toiles comme ça, une série de toiles, on peut être. C'est assez facile d'être dans une posture assez recueillie ou méditative ou spirituelle, on va dire. Hein. Et Rothko, alors c'est, évidemment, ça l'intéresse. Et il fait partie aussi de ces artistes, donc il y en a quelques-uns, hein, qui ont. Alors, voilà, je ne sais pas si on est après. Voilà, c'est pour donner une autre idée. Et puis, il a fait donc une chapelle. Alors, vous allez très mal voir. Bon. Voilà. C'est récupéré sur Internet, et alors... Et donc, à Houston, enfin, vous voyez, ça donne une idée, hein, quand même. C'est un lieu hexagonal. Si je l'agrandis, c'est encore pire, alors... Mais ça m'amuse aussi. En même temps. Et donc, voilà, une chapelle à Houston, commandée, qui, de ses dernières grandes œuvres, se suicide un peu après. Et donc, des tableaux très noirs, hein, voilà, mais bon. On est quand même tout à fait dans un souci du spirituel, hein, dans la peinture. Hein. Vous voyez, c'est pas du divin, mais même si, voilà, disons spirituel, pour parler de ça plutôt comme ça. Et puis, dernière chose, après, il y a tous ces travaux qui sont du côté de l'art optique, hein, comme Vasarely. Vous vous souvenez de, quand on avait parlé donc, du chamanisme, il y avait cette idée de conscience altérée, hein, dans le chamanisme, qui fait que je vois quelque chose dans l'autre monde et tout ça, c'est aussi quelque chose qui traverse, hein, l'art contemporain avec un usage des drogues, etc. Donc, un certain nombre d'artistes ont travaillé, expérimenté ça. Et donc l'art optique aussi, ça va, vous voyez, du côté de ce trouble de la perception. Hein. Donc ce trouble de la perception dans la conscience altérée, l'art aussi peut essayer de le retravailler. Évidemment, on est très vite. Dans l'idée que je vais avoir une peinture qui va me troubler au niveau de la perception, va troubler ma conscience et me donner accès à un autre état. Et donc très vite, on est dans les figures chamaniques. Bon. Donc voilà un exemple. Et puis un autre exemple, voilà, hein, de ces tarots optiques qui va vers le trouble de la perception. Et, juste pour le plaisir, donc, les dessins, un dessin miscalinien d'Henri Michaud, hein, donc, qui a, je trouve, un écrivain et un dessinateur tout à fait passionnant de ce point de vue-là. Alors, donc, je vais donc faire une petite accélération, parce que je vois le temps qui passe. Peut-être pas d'habitude, mais... Alors, figure du crucifié. On va dire, voyez, voilà, dans... comment dire, les figures de Dieu, pour reprendre tout ce que j'ai essayé de faire la dernière fois sur le monothéisme, sur la chrétienté, hein, Christo, tout ça, les figures de Dieu disparaissent, on peut dire, c'est un point de vue. On va voir, c'est un peu plus compliqué, mais les figures du crucifié, alors là, elles sont, traversent tout le XXe siècle. Hein, je veux dire, on retrouve ça dans... S'il y a une chose, on va dire, qui reste comme image héritée de toute la tradition chrétienne, c'est celle de la croix. Hein. Trinité, c'est fini, mais la croix va se retrouver. Hein. Donc du côté plutôt de la souffrance, etc. Alors Gauguin, bien sûr, Bernard Breton, Munch, une crucifixion de Picasso, Chagall, bien sûr aussi, crucifixion blanche, Dali, hein, Ascension du Christ, Bacon, hein, aussi, donc croix, une croix de Bacon. Et ça, c'est un travail d'un Allemand, qui s'appelle Arnulf Reiner, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, hein, et qui donc retravaille des images. Alors là, c'est, donc il fait des, il repeint ou efface, comme vous voulez, des photographies. Donc là, c'est une figure de Christ, hein, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais il le fait aussi par rapport à beaucoup de masques mortuaires, ou de masques de momie, ou des figures de son visage aussi à lui. Et puis aussi, il va développer... alors, il fait des choses intéressantes aussi, de peindre sans voir, les yeux fermés, etc. Et donc, il fait des croix, hein, donc une série de croix, voilà, hein, qui sont d'autres figures. Ça, c'est donc le Christ du Grunewald, hein, une photo qu'il repeint à l'encre de Chine. Voilà les masques, les visages en général de mort qu'il repeint. Alors, ensuite, dans les figures de crucifiés, il y a l'actionnisme viennois, donc Hermann Nitsch, donc qui voyez, parce que quand je disais que donc, dans l'art, il y a un côté, c'est les procédures qui vont être importantes, les dispositifs plutôt que l'objet. Donc les actionnistes viennois, dont Emmerich, vont faire des sortes de grandes performances. Hein. Alors c'est la première performance de Nietzsche, donc figure du crucifié. Et puis il y en a une autre donc dans un château en Autriche, c'était des grandes réunions de plusieurs centaines de personnes, et on est vraiment du côté de rechercher l'extase, la transe, quoi, hein, donc éviscération de veau, de brebis, aspersion de sang, c'est assez violent. Il y a des histoires un peu louches aussi avec tout ça, il est en prison à un moment. Mais oui, il y a vraiment, donc là, il y a vraiment un souci d'un... Je sais pas, c'est-à-dire, ils reprennent, l'actionnisme viennois reprend vraiment les figures du crucifié, enfin du Christ par exemple, et puis figure du sang qui aussi sont des rituels, enfin on va dire religieux au sens très très large du terme, et puis ils en font quelque chose comme une grande fête païenne, quoi. C'est-à-dire, ça, voilà, pour essayer de développer, je sais pas, une autre perception du monde, et puis on est dans des triangles aussi où l'art, Dieu, et puis je sais pas, le désir, la psychanalyse, quelque chose comme ça, la psyché, hein, humaine, donc cette façon d'exorciser ces désirs refoulés, des choses comme ça. Hein, on est dans cette manipulation ou activité psychique, hein, qui ne cherche pas forcément à maîtriser les choses, justement. Hein, d'où les dérapages, évidemment, possibles. Mais enfin, c'est une des figures assez importantes, on va dire. Et puis, il y en a, alors, voilà, d'autres. Alors, Chris Burden, qui est... donc, voilà, c'est... Cette fois-ci, aujourd'hui, dans les images du 20e, de temps en temps, je me dis, est-ce que je peux leur montrer ça ou... Donc, je m'arrête. Non, j'essaie d'être... Mais c'est vrai que, vous savez, que l'art contemporain, il y a des choses assez fortes, quoi. Hein. Et donc, Burden, c'est quand même une chose assez... Alors, c'est toujours bizarre, c'est des artistes... donc, Burden, il soumet son corps à des épreuves fortes. Là, il se fait crucifier pour de vrai, sur une... Donc, des clous dans les mains, hein, c'est puissant. Il se fait tirer une fois dans le bras, aussi. On le voit ramper sur des bouts de verre. Et là, c'est donc, il est comme ça, et la voiture, c'est de Volkswagen, et l'accélérateur est bloqué à fond. Hein. Et donc, c'était, je crois, une sorte de performance assez impressionnante. Alors, dit comme ça, c'est toujours bizarre, on pourrait se dire, ah, écoutez, il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai vu une vidéo de lui où il racontait tout son parcours dans l'art. Et alors, c'était absolument passionnant. Vous aviez un homme d'une, je ne sais pas, 40 et quelques années, qui racontait de façon très, très cohérente et assez... assez simple et vive en même temps, tout son parcours, et tout d'un coup, ce que j'en avais perçu comme une façon assez violente ou un peu bizarre, tout d'un coup reprenait sens. Hein. Donc c'est vrai que je vous montre ça, Chris Burden, B-U-R-D-E-N, parce que c'est un peu limite, mais franchement, c'est quelqu'un qui a essayé quelque chose de ce côté-là, à mon avis, du côté de la performance et de mettre en jeu son corps dans son art. Hein. L'art et la vie, hein, ça aussi c'est une des grandes questions du début du XXe siècle, donc il y va un peu loin, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas inintéressant. Et puis dans le genre, donc, alors une autre œuvre dans le genre, on va dire blasphème, je ne sais pas, donc c'est une photo de Serrano. Serrano, c'est donc, vous voyez aussi ces nouveaux entrées de nouveaux médiums, donc des gens qui ne font plus de sculpture, de peinture, qui font de la photographie, mais qui sont des artistes, qui ne sont pas des photographes. Et donc c'est un Christ photographié et il est mis dans un bac où il y a son urine, voilà, hein. Donc c'est ça que l'on voit, bon. Figure du crucifié, on va dire, hein. Et Serrano, il est connu pour photographier des gens aussi, des visages de mort, hein. Il a la mort, bon, qu'importe pas, mais voilà. On va dire maintenant Bon, on va continuer. Quelques artistes en écho. Alors, Yayoi Kusama, c'est une japonaise. Alors, c'est pareil, je fais partie des œuvres que je vous montre et qui sont symptomatiques du XXe siècle pour moi, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut aller les voir dans les musées. C'est que c'est vrai que c'est des œuvres, on peut les voir en photo, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est. Et donc, pareil, c'est un artiste qui ne faisait qu'un effet particulier, mais enfin, j'ai pas une exposition d'elle, et c'est très très fascinant. Alors, elle reprend beaucoup de choses dont je vous ai déjà parlé. Japonaise, bon, c'est pour écho au Shinto pour moi, c'est une personne qui a eu des troubles psychiques assez graves, il faut croire. Et donc, elle vit dans un... Bon, c'est le Japon aussi, mais elle vit donc dans un endroit préservé. Hein. C'est pas l'asile, mais vous voyez, c'est quand même... C'est un peu hors du monde, donc voilà, elle a très vite eu du mal avec le monde. Et alors, depuis toute petite, elle a des hallucinations. Et elle fait des petits pois, voilà. Et elle ne fait que ça tout le temps. Et elle fait des installations avec ces figures-là. Alors là, vous voyez, ces petits pois noirs sur des formes jaunes. Là, voilà. Et alors, elle joue avec les miroirs. Et c'est très impressionnant de rentrer dans ces espaces, parce que vous êtes vraiment dans le rapport à l'espace, dans un trouble réel de la perception, parce que vous êtes dans une sorte d'infini. Alors elle fait aussi des choses, par exemple, avec... bon voilà, autre, ça donne une petite idée. Alors ça, par exemple, la photo rend compte de rien, mais c'est des petites guirlandes lumineuses hein, qui sont suspendues, parfois elles s'allument et elles s'éteignent. Et alors, donc j'avais vu une de ces installations, c'est très fascinant. Je trouve qu'on est vraiment, enfin vraiment, en partie oui, dans du côté du figure divin, vraiment... On est tout d'un coup dans une figure de l'infini, par exemple, vraiment. Hein? Et un trouble de la perception, et puis il y a aussi une sorte de beauté, je ne sais pas comment dire ça, de cet espace étoilé. Vous êtes voilà, dans une exposition, vous rentrez dans un musée, puis vous rentrez dans cette pièce-là, puis tout d'un coup, on rentre dans un autre espace. Donc Yayoi Kusama, et alors voilà un autre exemple de ces installations, toujours petit pois, miroir, etc. C'est toujours la même chose, c'est toujours différent. Et la voilà, elle, évidemment. Alors, et puis, elle se fait des vidéos, donc, figure chamanique. Hein. Elle joue son petit tambour, elle pousse des petits cris, tout ça. Quoi. Donc, là, je veux dire, elle est vraiment dans le... Voilà. Alors, une autre œuvre que j'avais envie de vous montrer aussi, c'est une œuvre de Romain Opalka. Opalka, alors, voilà, ça se présente comme une peinture abstraite, on va dire. De loin, une variation de gris. Quand on les voit en vrai, il y a vraiment une très... Très belle variation de gris. Quand on se rapproche, on voit des chiffres. Et voilà. Opalka, c'est quelqu'un qui décide dans les années 60 donc de prendre une toile d'un certain format, 1 mètre sur 1m30. Et il fait le fond noir et commence à inscrire le chiffre 1 dessus, puis 2, puis 3, puis 4. Et depuis, son seul travail, donc vous voyez, je suis côté de la 16 totale, son seul travail de peintre, c'est de continuer cette numérotation. Hein. Et donc, son problème, c'était de montrer dans l'espace le temps. Donc, il montre le temps de sa vie. Voilà. Si vous voulez, donc ça veut dire qu'il passe des années de passer, quand il arrive à 3 millions, puis après il passe à 4 millions, et il sait déjà qu'il n'ira pas à 9 millions, par exemple. Il sera mort avant. Donc, ses œuvres s'appellent de 1 à l'infini. Chaque œuvre, chaque tableau, c'est un détail. Et c'est vraiment une sorte, donc... c'est obsessionnel, hein, mais peut-être dans le bon sens du terme. Et donc, quand il part en voyage, il part pas, s'en va terminer un de ses fragments, et il a des petites feuilles, format A4, sur lesquelles il continue à numéroter. Donc, il explique vraiment ça comme un saut dans le vide, comme un suicide. Hein. Il a sauté dans cette chose-là parce qu'il s'est interdit de faire toute autre peinture. Et alors, je trouve que dans le genre, il est. Oui. Alors, vous voyez. Oui. Donc voilà plus près. Alors, il utilise des petits pinceaux numéro 0 qui s'usent, si vous voulez, bien sûr. Alors, la variation qu'on voit, la vibration lumineuse, c'est qu'il trempe son pinceau dans la peinture, il écrit son chiffre, donc la peinture s'épuise un peu, puis retrempe. Et j'ai comme ça un jeu de blanc qui s'efface peu à peu. Et tous les pinceaux sont numérotés pour savoir de quel chiffre à quel chiffre il a utilisé. Vous voyez, c'est très très fort pour ça. Et il se prend photo à la fin de chaque séance. Donc vous voyez, ça c'était donc plutôt au début, et ça c'est un peu plus tard. Donc c'est vrai que quand on voit l'exposition d'Opalka, il y a son visage aussi qui... Et voilà, ça, Donc il travaille, alors, je ne sais pas maintenant, mais il est dans une maison pas très loin d'ici, dans le sud de la France, dans une cave plutôt, un endroit assez voûté. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très ascétique hein, dans la posture au moins. Hein, de, voilà, chemise blanche, pinceau blanc, etc. etc. Donc voilà pour Opalka, qui me semble une figure intéressante. Et puis sinon, d'autres figures. Alors, Annette Messager, donc voilà par exemple... Donc des petites figurines qu'elle appelle ses vœux, donc des peluches qu'elle utilise, une petite photo, généralement de corps, et puis une inscription sur le mur, comme ici, protection. Hein. Voilà aussi le genre de choses, donc on est vraiment aussi dans... pas très loin pour moi un peu peut-être du vaudou donc, dont je vous parlais, puis voilà d'autres petits fétiches. Hein, ce jeu comme ça entre le très joueur du jouet d'enfant et le très macabre, on va dire, je sais pas. Et Boltanski aussi, hein, qui travaille des reliquaires. Vous avez donc au carré d'art une œuvre de Boltanski qui est toujours intéressante parce que c'est aussi elle est une œuvre qui a été faite pour le carré d'art qui est un seul endroit. J'aime beaucoup ça aussi parce que enfin je fais ça parce que je pense à tout ce que j'ai encore à vous dire. Mais parce que juste parce que voilà cette idée quand je pense un peu à ces figures divines pour moi il y a l'idée de sanctuaire, de rituel. J'en ai pas parlé mais un moment qui vient pour parler c'est de la musique qui est vraiment le chant hein, et toujours ce qui permet aussi la transe hein, c'est assez important et je trouve intéressant que des gens comme Boltanski dans ce cadre du musée où les œuvres sont immatérielles et aussi très transportables vraiment il résiste à ça Boltanski à sa manière puisqu'il fait une œuvre pour un lieu et une œuvre indéplaçable. Hein? Et donc, pour moi, il revitalise, on va dire, ce rapport de l'œuvre au lieu privilégié, au sanctuaire. Hein? Et je trouve qu'au carré d'art, vous voyez, ça m'amuse de voir les œuvres qui changent et d'autres œuvres. Et tout ça, puis la sienne, hein, elle est toujours au même endroit. Vous voyez, et ça, je trouve, c'est une bonne façon de faire appel à ça. D'autant en plus, là, évidemment, il travaille sur la Shoah, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ça. Et voilà pour. Alors, c'était certaines choses, mais enfin bon. Alors, autre mouvement que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est tout ce qui est Land Art, hein, ce que je montrais au début. Donc là, c'est, donc, vous voyez, donc les années 70, donc c'est la Spiral Getty de Smithson, donc qui est fait dans... Alors, américain, hein, mais long et anglais, on a les grands espaces, elle a une histoire assez intéressante. Alors on retrouve le motif de la spirale est un motif ancestral, hein, donc très archaïque, donc c'est vrai que quand il reprend ce motif-là, c'est pour moi reprendre, on va dire, le primitif, dans tous les sens que vous voulez, si vous voulez, et elle a une histoire intéressante, parce que à un moment, le niveau du lac a remonté, donc là c'était avant qu'elle remonte, que le niveau du lac remonte, donc elle a disparu sous le lac. Donc aussi les artistes du Land Art, en fait, ça les inquiète pas du tout que ça disparaisse, hein, c'était pas leur problème. Mais le niveau du lac a rebaissé, donc elle a réapparu. Et alors en mieux, si je puis dire, puisque comme c'est lac salé, toutes les pierres sont réapparues avec du gem sur les pierres. Donc c'est vrai qu'on va dire, elle a une petite histoire assez intéressante. Hein. Elle est devenue plus cristalline, quelque chose comme ça. Donc, Smithson, c'est les premières œuvres du Land Art dans les années 70. Alors voilà, ça c'est des vues de... Donc, quelqu'un, on n'avait pas la dernière fois, enfin, avait posé de questions. Donc, c'est au Pérou. C'est entre moins 700 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ, d'après ce que dit le petit livre de dessous, je n'ai pas été vérifié. Donc, des tracés au sol, hein, non, voilà, il y en a un certain nombre. Alors ça, c'est une œuvre de Walter de Maria qui aussi, je trouve, intéressante, parce que c'est donc dans le désert, des pics d'acier qui sont plantés à intervalles réguliers dans le sol et qui sont là pour attirer la foudre. Hein, voilà. Donc, ah non, c'est pas ça que je vais montrer, ça fait rien. J'avais une autre photo, on voyait dans plein jour. Mais on devine, c'est... Vous voyez, donc, c'est vraiment... vous voyez, une œuvre où l'objet artistique, c'est l'éclair qui tombe, quoi. Hein, dessus. Donc on est vraiment dans l'éphémère, on est vraiment dans le cosmologique, dans le cosmique. Hein. Et puis c'est vrai que, voilà, Zeus, enfin, hein, on est dans les dieux du tonnerre, de l'orage. Alors, Richard Long, hein, que, donc avec l'œuvre qu'on vient tout début, et puis donc ces gens du Landas, ils sortent de l'atelier, c'est leur souci, hein, déjà, et donc enfin, le premier souci, on va dire. Et puis là, donc, c'est une ligne tracée dans un désert par sa marche. En fait, il marche pendant des heures, hein, on le voit travailler sur une ligne, et puis il pousse avec son pied les cailloux à gauche, à droite, aller, retour, pendant un certain moment, je ne sais pas, ça a dû lui prendre un certain moment, et voyez, il trace cette ligne et il fait une photo. Et vous voyez, il y a tout. Alors bien sûr, dans les supports, dans l'histoire des supports de l'art, hein, la photographie est un moment très important. Tous ces artistes existent parce qu'il y a la photo. Parce qu'ils font ces œuvres-là, évidemment, bon, à part Smithson, il y en a certains où on peut aller les voir. Hein, mais déjà, c'est compliqué, Walter de Maria, c'est sûr qu'on peut y aller. Mais donc, souvent, c'est des œuvres qu'on a par photographie. Et parfois, c'est des œuvres assez éphémères. Et donc, ils font quelque chose, ils photographient. Et les expositions vont être des expositions de photos. Pas uniquement de photos, d'ailleurs, parce qu'ils exposent, en fait, souvent, toutes ces gens-là, des photos ou des textes. Alors voilà d'autres figures au Pérou, quelque chose vu de loin. Vous voyez, il y a vraiment pas très loin de Long. Voilà un travail de Long, genre en Islande, genre de travail que je trouve, bon, celle-là, pas forcément, mais où il est vraiment, pour moi, un rapport au mégalithe, on va dire, hein, ou à la pierre levée, quoi. Donc je suis vraiment. Et puis Long, c'est toujours des formes primitives, enfin, c'est cercle, ligne. Et donc il lève des pierres, sorte d'aliment de pierre levée, il fait une photo et il remet les pierres à leur place. Alors, vous voyez aussi, il y a ce souci écologique avant l'heure, on va dire, d'une partie de ces artistes. Quoi, hein. Voilà notre aliment de pierre. Donc il travaille avec les matériaux qu'il trouve. Voilà un autre aliment de pierre blanche. Des cercles. Voilà, alors. Là, je suis en Mongolie. Et voilà d'autres cercles tracés comme le premier que je vous ai montré sur les murs, donc avec de la terre. Et là, peut-être on voit mieux les traces de ses doigts un peu. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu en entrée. Et voilà une des œuvres dans une exposition, donc hein, où il aussi réinstalle dans l'exposition des pierres ou des cercle de glou. Et ça, c'est une œuvre d'un de ses compatriotes, collègues, Hamish Fulton, qui aussi, leur activité principale comme artiste, c'est de marcher, hein, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Donc, et donc, Hamish Fulton, parfois plus radical, on va dire. Donc, voilà, ce qu'il montre, c'est ça, entre guillemets, c'est qu'il a marché, donc, en Écosse, en 93, et il s'agit de ne pas parler pendant 7 jours. Et donc, il y a juste cette phrase-là. On n'est pas très loin des ascèses spirituelles non plus, hein, évidemment. Neil Sudo, hein, voilà, assez connu. Il y en a qui travaillent dans les jardins, c'est toujours une œuvre d'Neil Sudo, donc beaucoup travaillent dans le paysage. Et voilà une œuvre aussi d'un autre qui s'appelle Andy Goldworthy. Et donc, des œuvres simples, mais que je trouve assez intéressantes, c'est. Il pleut, il attend la pluie déjà, toujours dans le rapport cosmologique, il s'allonge sur une pierre, au moment où il commence à pleuvoir, et il ne bouge pas, jusqu'à ce que le sol soit bien trempé, il se relève rapidement et fait une photo. Hein. Voilà le principe. Quoi. Et c'est vrai, c'est éphémère, c'est simple, et en même temps, je trouve que ça dit beaucoup de choses. Voilà notre œuvre de Goldworthy, donc lui, il appelle ça des graines, plutôt. Hein. Mais voyez, graines, fertilité, on retrouve des choses aussi... assez. Et puis là, c'est des feuilles collées sur un rocher. Et juste, j'ai pris celle-là jaune parce que le jaune est une couleur un peu particulière, mais étoile jaune, donc qui peut être très péjorative, et une couleur aussi majorante, on va dire, parce que c'est souvent la couleur des dieux aussi, hein, le jaune. Hein. Donc je ne sais pas si. Bon, il fait aussi pas que de jaune, évidemment. Et puis voilà comment il travaille au bord de la mer, il aime bien que l'eau arrive et fasse disparaître les choses. Hein. Vous voyez, et puis vraiment un rapport au temps, au climat. Donc il travaille avec les saisons, avec le froid, avec le chaud, avec le flux marin, donc l'influence de la lune, donc la fertilité. Hein. Vous voyez, tout ça, on est vraiment dans des figures très très traditionnelles, on va dire, de Voz de Cosmos. Et le dernier, Wolfgang Leib, qui ramasse du pollen de fleurs, qui fait donc des... Alors, je ne sais pas, vous l'aviez vu peut-être au Carré d'Art, hein, et c'est pareil, les œuvres de Wolfgang. Alors, il commence par des études de médecine, hein, Wolfgang, c'est toujours intéressant de voir le parcours, là je sauve certains parcours de cet artiste, mais voilà, médecine, art-thérapie, on voit qu'on peut vraiment faire rapport au corps, on peut vraiment faire des liens pour rapport religieux, voilà, c'est toute petite encore, on le voit dans un champ, c'est une pierre à lèche, désolé. C'est un carré de pollen. Voilà. Ça, c'est le premier, c'est Walter de Maria. Et puis, j'ai une petite vidéo de lui, mais je crois que je vais la sauter pour l'instant. Mais c'est marrant parce que, on verra si on a le temps après, on voit dans ses dernières œuvres, c'est des œuvres avec des bougies. On est vraiment dans quelque chose de terriblement religieux, puis il travaille aussi avec de la cire d'abeille, on a travaillé sur les odeurs, et donc il a fait une sorte de... dans une grotte, hein, il a fait un petit espace qu'on peut visiter, d'ailleurs, il faut dans le petit village, demander la clé, tout ça, et puis après marcher un peu, et puis on arrive dans un espace où il a entièrement recouvert les parois, hein, de cire d'abeille, donc pour l'odeur, pour la couleur et tout ça. Voilà. Alors, très, on va dire, on va terminer. Hein. Donc, une des figures marquantes de l'art aussi dans les années 70, c'est Joseph Beuys. Hein. Et alors là, on est, donc performance, sculpture sociale, on est vraiment dans... Alors lui, il revendique totalement la figure du chaman. Donc, Beuys, il a une histoire, l'histoire est la suivante. Enfin, c'est toujours rigolo parce que c'est voilà, histoire de l'art, art de l'histoire, donc les artistes racontent des histoires. Et il y a des histoires matricielles, on en verra pour Viola. Alors, l'histoire matricielle réelle de Beuys, c'est qu'il est pilote dans la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Son avion se fait descendre au-dessus de la Mongolie. Son copilote, enfin, lui, meurt. Lui est brûlé au troisième degré et recueilli par des Mongols, des tribus nomades qui passaient par là, et soigné avec de la graisse. Donc son corps couvert de graisse, enveloppé dans du feutre. Voilà. Et donc, ça lui sauve la vie, ça certainement. Et il va donc faire un travail qui est du côté de l'énergie. Hein, donc on retrouve les forces. Énergie sociale aussi, c'est donc un grand activiste des Verts à l'époque en Allemagne. Et puis fait planter comme œuvre, il fait planter des arbres par exemple, dès tout début de la pensée écologique. Et puis il fait des performances qui sont, vous voyez, hein, avec l'eau, beaucoup d'eau, et puis des sortes de petits rituels, et puis il revendique totalement la figure de chaman. Donc il travaille avec le feutre, avec la graisse et avec le cuivre, hein, toujours en pensant que ça fait quelque chose au niveau de l'énergie. Alors il fait des performances comme celle-là, où pendant une semaine, il reste enfermé dans une galerie à New York, c'était à Lac America, An America Likes Me, consistait à ne pas poser, entre autres, le pied sur le sol américain. Donc, il descend de l'avion, il y a une ambulance qui vient le chercher. Sur un brancard, on l'emmène dans la galerie. Il est enfermé avec un cognac pendant une semaine. Et même chose, il repart sur son brancard, etc. Et voilà. Et donc, il a sa couverture de feu, sa petite canne, et des journaux de Wall Street. Et puis voilà, le coyote, figure de l'Indien décimé aux États-Unis, toujours, et figure chamanique bien sûr. Donc on retrouve cette figure hein, du chaman, donc à la fois force et à la fois force sociale, hein, on peut le dire comme ça hein, aussi, à mon avis. Alors donc quelques photos de Beuys. Ça c'est des aquarelles, bon je saute, voilà une sculpture, on devine la graisse sur la chaise, ça c'est bon, des pierres, ça c'est une œuvre à Beaubourg, en fait c'est un espace entièrement fait de rouleaux de feutre, et c'est vrai que la température est totalement constante, toujours la même à l'intérieur, et température du corps humain, et le son est très très ouaté, et on fait une expérience physique quand on rentre dans cet espace-là. Évidemment, ce qui est aussi rigolo, c'est que donc en 20 ans, tout change, puisqu'il y a 20 ans, on entrait dans cette pièce, Et maintenant, on ne peut plus rentrer, trop de chance, hein, je ne sais pas pourquoi. Hein, on rentre un petit peu, on fait 2 mètres, quoi. On ne peut absolument plus aller dans le fond. Voilà des œuvres de Beuys. Voilà, donc le feutre, croix, hein, bien sûr. Voilà. Alors, une autre figure que j'ai trouvée intéressante aussi, toujours. C'est une figure d'Ernest Pignon-Ernest, qui est un artiste absolument passionnant. Il fait des sérigraphies, par exemple, ou des dessins à l'encre sur du papier qu'il colle dehors, on va dire. Donc lui, c'est vraiment... Alors, il y a une inspiration très religieuse, donc il s'inspire, par exemple, énormément du Caravage. Hein. Donc, il reprend des figures, décapitations, vous voyez, ces figures-là, et le Christ, et de Jésus. Alors, par exemple, à Naples, il a beaucoup travaillé à Naples, son travail, c'était au moment de Pâques, dans la nuit de Pâques, il va donc coller dans les rues, subrepticement, 40 affiches de Jésus. Hein, Jésus est ressuscité, Jésus revient. Quoi. Et ce genre de choses. Et il pense, vous voyez, dans l'éclatement, on va dire, d'abord au niveau de l'objet d'art, évidemment, c'est un objet éphémère, donc il va rester de nouveau que la trace photographique, hein, comme d'autres qu'on vient de voir. Et puis, c'est très important l'espace, c'est-à-dire que vraiment, il se promène dans les rues et il regarde où est-ce qu'il pourrait accrocher ou coller ses images. Hein. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce souci de l'image dans son contexte, on va dire. Hein. Donc il y a quelque chose à la fois de très ancré dans une relation personnelle à une histoire de l'art, à une peinture, on va dire, très traditionnelle, hein, Caravage, Ingres, on est vraiment dans ce côté-là, et en même temps une mise en situation qui va vraiment vers quelque chose de aussi très social et très public. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est d'être dans cet espace public. Hein, des images agissantes. Donc la première que je montrais, c'est donc sur à propos d'expulsion. Hein, vous voyez, donc les endroits d'expulsion rasés pour après reconstruire du neuf. Voilà, il collait ses sérigraphies dans ces endroits-là. Et puis bon, diverses, voilà, et d'autres comme ça avec évidemment un jeu aussi sur le trompe-l'œil. Hein, vous voyez, parce que là, c'est vrai que sur la photo. Hein, c'est souvent assez troublant. Hein. Et là, dans ses derniers travaux, il travaille sur l'extase. Hein. Donc il essaie de retravailler sur des extases souvent féminines, des figures d'extase féminines. Voilà. Et donc ça, c'est des dessins à l'encre noire dans son atelier. Hein. Et voilà une autre image. Alors, que je trouve intéressante pour la petite histoire, parce qu'il l'a collée à Alger, hein, juste pour repenser au monde musulman. Donc, c'est la figure d'un des premiers. Alors, je ne sais plus son nom, je suis désolé. Hervé, je crois, mais je me souviens. Non, ça, je ne sais pas si c'est quelque chose à quelqu'un. Après, Gaudin, mais j'ai oublié son nom. Enfin, un des premiers Français à avoir soutenu la FLN, tout début. Et donc, lui, il revient coller cette figure-là, comme travail de mémoire, on va dire, dans Alger. Évidemment, cette affiche, elle est arrachée au départ. Hein, par des jeunes musulmans, parce que c'est une image, hein, on retrouve ce que j'ai dit la dernière fois, et donc il explique comment, il leur explique qui c'est, hein, et donc après l'image n'est plus arrachée. Et juste la petite. Donc c'est vrai que je trouve ça, voilà, on est toujours dans des prolongements pour moi des enjeux qu'on avait vus un peu la dernière fois. Et Pignon-Ernest, il est dans un endroit qui est assez intéressant pour ça, pour réactiver. Des enjeux, on va dire, au sens politique, sociaux, religieux, tout ça mêlé. Voilà. Alors, donc, après la photo, on va passer, on va dire, à la vidéo, aux images en mouvement. Donc, un des grands artistes celui qui est pensé comme le grand artiste de l'art vidéo, c'est Bill Viola. Et donc, il a une inspiration, alors là, totalement spirituelle, religieuse. Enfin, vraiment. Alors, sa petite histoire matricielle, pour lui, c'est qu'il est tombé dans l'eau quand il était petit, c'était sur un étang, il tombe dans l'eau, donc un lac assez clair, et alors il a un souvenir émerveillé de ce qu'il voit tout d'un coup. Donc il voit les algues, il voit le fond de l'eau, il voit la lumière, et il a absolument pas peur du tout, mais au contraire un émerveillement total de cette vision. Cette vision, et alors les termes sont religieux, vision extatique, quoi, hein, l'autre monde, ou bien vision chamanique, comme vous voulez. On est vraiment dans ces registres-là. Et alors, l'eau est une chose extrêmement présente dans tout son travail. Alors, j'ai eu un peu de mal à trouver. Puis alors, non seulement trouver des vidéos, mais il y a une chose qu'on ne va pas pouvoir faire ce soir, c'est faire l'expérience du temps. C'est donc des œuvres qui se déploient dans le temps. Donc vraiment, ça dure assez longtemps. C'est intéressant que ça dure. Et donc là, on n'a pas le temps. Mais c'est vrai que ça dure 20 minutes et qu'en 20 minutes, il se passe quelque chose. Alors, par exemple, quand même, une que je vais vous montrer en donc tout à fait, je sais pas, comme il faudrait pas, sans doute, évidemment, mais qui s'appelle The Crossing. Donc c'était à la Beauté en Avignon, c'est très beau, c'est deux grandes portes lumineuses, vous voyez. Donc déjà, je trouve intéressant, la projection qu'il fait n'est pas du côté du rectangle paysage, comme tous nos écrans, mais j'ai une porte. Et j'ai deux portes qui se font face, dans les deux, un homme s'avance, dans un... À un moment, l'eau va arriver, il va disparaître dans l'eau, et dans l'autre, tout d'un coup, le feu va s'enflammer, il va disparaître dans les flammes. Alors, je vous fais un zapping, comme il ne faut pas faire. Mais bon. Vous voyez, c'est toujours la même chose, mais ça va venir. Peut-être. Là. Voilà. Donc, l'eau arrive, et puis bien sûr, ça va s'accentuer. Puis encore. C'est très saisissant quand même, hein. Souvent il est assez fort pour ça. Voilà, et puis voilà, et puis. Il y a le son est très important, les bruits sont généralement, et donc jusqu'à la fin. Vous savez ça. Et puis donc une image du feu, hein. Voilà, on a la même chose avec le feu. Et puis, il fait, alors, il a aussi travaillé c'est une image, un triptyque. Alors, vous voyez, il y a souvent ces corps, c'est parmi les belles œuvres, il a fait souvent ça, de Viola, où on a des corps plongés, comme ça, dans l'eau. L'image est souvent très ralentie, hein, dans Viola. Le son aussi est très ralenti. On a des corps en apesanteur, on va dire, hein. C'est l'image du milieu. Et là, c'est un triptyque, alors triptyque, hein, on a vraiment une orientation religieuse. À gauche, en fait, il filme la mort de sa mère, et à droite, la naissance de son enfant, hein, on va dire. Donc, c'est un triptyque où il y a trois choses qui se développent, comme ça. Donc, on est vraiment aussi dans... Voilà. Et puis, il fait maintenant des images aussi... Donc aussi, dans ses dernières œuvres, en fait, c'est des écrans plats accrochés sur les murs qui pourraient ressembler à de la peinture. Et parfois, là, celui-là, ça bouge un peu, parce que parfois, ça met, je veux dire, ça bouge. On peut voir l'image et ne pas se rendre compte que ça bouge. Hein. C'est une image en mouvement, on peut penser que c'est une photo, on va dire. Et en fait, il y a un grand travail sur la lenteur. Bon, mais là, vous voyez, on a... Et donc, on est de nouveau dans l'eau, la purification, la naissance, le Christ, la Pietà, enfin, vous voyez, résurrection, enfin, vraiment, on peut dire qu'il agite énormément de références. Hein, de... Alors, on peut penser donc les deux choses, parce que Viola, il est très très connu, très reconnu. Donc c'est vrai qu'on peut penser aussi être assez critique par rapport à lui. Hein. Et bon, voilà. Parce que... Voilà. Donc j'arrête là. Et puis le dernier dont je voulais vous parler... Je suis vraiment arrêté. Voilà. Alors James Turrell, alors c'est pareil, vous allez, je vais essayer de vous montrer, mais ça donc on voit, enfin un peu. Alors James Turrell, il est donc, c'est un Quaker, hein,
protestant, il travaille sous la lumière, il fait des choses passionnantes, je trouve, vraiment. Si vous voyez un jour son nom quelque part dans une exposition, allez, vous pouvez y aller, parce que moi je trouve ça tout à fait fascinant. Et en plus, on peut ne pas voir, c'est-à-dire par exemple, les œuvres de James Turrell, alors pas celle-là, voilà, c'en est une, bon, c'est, par exemple, voilà une pièce, hein, son œuvre c'est aménager une pièce avec une ouverture sur le ciel. Donc, et des lumières aussi qui sont au sol dissimulées. Donc, je vais avoir une variation sur la lumière qui va être due à deux choses, à la fois la variation extérieure du jour et de la nuit, et la variation intérieure des lumières qui dissimulent et qui elles-mêmes changent de luminosité. Hein, donc, il a fait ça au Pont du Gard, il illumine le Pont du Gard, c'est absolument loupé de mon point de vue, enfin, bon, c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, donc, c'est pas un bon exemple, je trouve, pour son travail, qui est souvent très très passionnant. Et donc, une des choses aussi assez connues de lui, ses premiers travaux, alors j'espère que je vais retrouver, ça me trouve. J'avais noté, mais j'ai oublié. Donc vous voyez ce genre d'espace, proche de ce que je vous ai montré, avec évidemment variations, hein. Bon, ça c'est autre chose, ça aussi, on est toujours dans le... Bon, une de ses œuvres, enfin un de ses travaux, c'est donc des pièces, voilà les œuvres qu'on peut ne pas voir, quand on n'est pas James Stewart. C'est-à-dire que j'en avais une à la beauté, enfin plutôt à la beauté, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de sas noir, on rentre dans une pièce et il y a un monochrome. Voilà, donc plein de gens rentrent, hein, puisque c'est essayer de tout voir, et donc rentrent, regardent, disent bon, et ils s'en vont. Et en fait, il se trouve que le dispositif est le suivant. J'ai une première pièce comme ça. J'ai comme idée d'un éclairage, tout ça. Mais quand on commence à rester un peu, d'abord la lumière change un peu. Et on a vraiment, on se demande de quoi est fait ce monochrome, cette peinture, qui a l'air d'avoir une lumière très particulière. Donc on s'approche. On est devant à 10 cm. On ne comprend pas vraiment ce que c'est. Avec quoi c'est fait et comment c'est éclairé. C'est assez mystérieux. Et alors, on regarde s'il n'y a personne, et on dit, on va toucher pour moi. Et alors, on touche, et alors là, surprise, la main passe à travers. En fait, et oui, c'est une expérience très intéressante, hein, vraiment. En fait, il découpe le mur. Alors, c'est très savant, mine de rien, je ne pense pas dans les détails, mais il découpe le mur, il y a un biseautage très très fin, et toute la pièce derrière est repeinte avec un blanc particulier et avec des lampes qui éclairent cette pièce. Donc, il crée derrière cette ouverture une sorte de halo lumineux. Donc on voit du vide, de l'invisible, et en même temps c'est quelque chose. C'est de la couleur, c'est de la lumière. Voyez, et donc ça fait partie des procédés qu'il met en œuvre au Turrell. Il fait plein de choses. Alors la dernière chose qu'il a faite, c'est qu'il a acheté un... il faut que je m'arrête, je sens. Il a acheté en Arizona, dans un désert qui s'appelle Paint Desert, enfin, déjà, qui est un nom rigolo, un volcan éteint, qui était un ancien territoire Hopi, donc il a fallu qu'il se mette en accord avec la tribu, on va dire, donc c'est rigolo aussi, et alors où il fait des machines à vision, des sky space, il appelle, c'est-à-dire qu'il creuse le cratère, il fait des espaces à l'intérieur, vous voyez, c'est un des espaces, bon, je suis à l'intérieur de ce cratère, un immense cratère dans un désert, hein, c'est ce qu'il faut penser. Et donc, il a réaménagé l'intérieur avec des ouvertures diverses et variées, quoi, et qui sont donc... je ne sais pas trop où ça en est, je crois que c'est bien avancé, et je ne sais pas trop comment ça se visite, en fait. Mais le principe, c'est ça, c'est qu'on va dans cet endroit-là pour faire une expérience de la vision. Quoi. Et en fait, ce que l'on voit, c'est donc, je ne sais pas, le ciel, mais c'est plus le ciel. Hein, et il y a tout le jeu des variations de lumière, et c'est vraiment des... Voilà, et donc c'est sa dernière grande réalisation, je pense, assez intéressante. Voilà. Et donc, pour vraiment terminer, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un petit extrait d'Ordette de Dreyer, qui est un film absolument extraordinaire. Donc, vous voyez, donc, déjà, la vidéo, on a donc tout ce moment de la simulation qui fait qu'à travers Viola, je veux dire, l'image ralentie, on est dans des mises en œuvre assez étranges. Et puis, Turel, c'est plus dans l'espace, mais Ordette, hein, voilà, le cinéma peut ressusciter les morts. Et donc c'est un film très très beau. Ordette, ça veut dire parole. Hein, et donc l'histoire, c'est qu'on a je suis dans une secte protestante assez rigide, et j'ai plusieurs fils, et donc j'ai un fils qui s'appelle Johannes, qui a l'air de est présenté comme quelqu'un entre guillemets malade. Il se prend pour le Christ, donc il s'enfuit, on le recherche, etc. Et il se trouve que Inger, qui est donc la femme d'un des frères, là on a le père derrière, donc un des frères, Inger, et Inger attend un enfant, et elle meurt au cours de l'accouchement. La scène, c'est que Johannes vient devant le cercueil, et le père commence par lui dire « Johannes, tu as l'air d'avoir trouvé tes esprits ?» Il dit oui. Et puis, Johannes, le jeune frère, que je faut que je montre peut-être. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, Johannes. Donc, c'est une version sous-titrée anglais, je suis désolé. Johannes dit : mais personne n'a essayé de lui redonner vie. Arrête, Johannes, tu redeviens fou, c'est pas célébratoire. Et donc, il y a la petite fille, l'enfant, qui vient et qui, vous voyez, c'est vraiment bon, et elle qui croit son oncle. Et enfin, voilà, je vous montre un petit extrait, et puis on va terminer sur ça. Donc voilà, il est. Donc il dit, meurt, tu dois pourrir parce que tout est pourriture. C'est donc le mari. bon, voilà, si je vous demandais comment terminer tout ça, je trouve que c'est sur les figures divines, on termine par un enfant qui croit, et donc ça marche. Voilà.